voyez que c'était beaucoup de propositions et maintenant je serais contente d'entendre vos critiques et vos propositions.
Y a-t-il peut-être des... Jonathan ?
La première question qui me vient, c'est de demander quand tu emploies le terme de démocratie, est-ce qu'il faut l'entendre comme démocratie libérale ou pas ? Parce qu'au fond, la grande question de notre époque, c'est pas seulement la question des démocraties versus des régimes autoritaires, totalitaires, voilà, mais au fond, du questionnement qui est en train de la fissure qui est en train de s'opérer dans le monde démocratique entre démocratie libérale et illibérale. Et je note que le monde juif, sur le XXe siècle, a quand même été marqué par un... évidemment, au-delà de la Shoah, par la grande bascule d'un peuple juif qui vivait massivement dans des régimes autoritaires au début du XXe pour vivre massivement dans des démocraties libérales à la fin du XXe. Et donc, je m'interroge beaucoup sur le lien, non pas seulement avec le côté démocratie au sens strict, mais le libéralisme tel qu'on l'entend au sens politique.
Et c'est là où ça rejoint évidemment le judaïsme, c'est-à-dire que ce sont des démocraties qui reposent, dont le fondement est la reconnaissance de la valeur de l'individu et des libertés, évidemment, qui sont attachées. Donc c'est en ce sens-là, et ce sont ces démocraties, donc précisément, qui sont attaquées par... celle que tu désignes comme démocratie illibérale, dont on sait très bien que, en réalité, elles se présentent extérieurement comme des démocraties, mais que un certain nombre de perversions sont à l'œuvre. Et c'est là où je disais que justement, c'est très compliqué pour nous parce qu'elles se présentent comme des démocraties. Et quelqu'un comme Orban, par exemple, va expliquer, ou Erdogan, qu'il représente, ou Marine Le Pen, qu'il représente beaucoup mieux le peuple que ne le font tous les dirigeants qui sont à la tête des régimes parlementaires représentatifs. Sauf que il y a toujours quand même un moment où il est difficile de défendre cette opinion. D'abord parce que si on voit les élections qui se tiennent, par exemple, en Turquie, on sait très bien que ce ne sont pas des élections qui sont libres. Et voilà. D'autre part, le régime de Orban, on sait très bien qu'il y a la confiscation des libertés publiques. Mais, encore une fois, c'est là où c'est compliqué, parce que c'est très pervers dans la mesure où ce sont des régimes qui utilisent le même vocabulaire que le nôtre, notamment institutionnel. Et c'est ce que Aron montrait très bien d'ailleurs quand il analysait en 1938 ce qu'il appelait les machiavélismes modernes. L'intelligence d'Aron, c'était de dire qu'il faut arrêter de considérer que les gens qui votent pour les extrêmes, pour le parti nazi ou le parti fasciste, sont des foules irrationnelles, comme on les décrivait souvent, comme Hermann Broch, par exemple, les décrit. Il disait pas du tout. Ce sont des gens qui obéissent à une logique, qui est leur logique propre. La difficulté vient de ce que lui appelait la propagande, c'est-à-dire la pénétration par ces mouvements des institutions qui étaient les anciennes institutions démocratiques et, en réalité, le fait de les subvertir de l'intérieur sans changer de vocabulaire. Et je crois qu'il avait parfaitement raison, et je crois que c'est exactement comme ça que fait le Rassemblement national. Le Rassemblement national, bon, enfin, je sais pas... Voilà, on voit bien qu'ils ne hurlent pas sur les bancs de l'Assemblée, ils arrivent avec une cravate, etc. Mais en réalité, le projet qu'ils appliquent et qu'ils entendent appliquer quand ils seront au pouvoir revient à subvertir les institutions, c'est-à-dire que sous une apparence qui restera identique, évidemment, les politiques menées détourneront complètement le sens de ces institutions. Voilà, je ne sais pas si j'ai...
Pour rebondir, merci également, c'est vraiment très riche, mais tu disais qu'il ne faut jamais céder sur l'esprit critique.
Ouais.
Et par rapport à cette question démocratie libérale, tu parlais des libertés individuelles dans le mot libéral, mais il y a aussi un concept économique. Et je me demande si la fin du cycle que tu vois... Enfin, tu dis, voilà, c'est la fin d'un cycle, mais je me demande si ce cycle n'a pas commencé la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire, comme disent certains experts ex-soviétiques installés en Angleterre, on a trouvé qu'il y avait une perestroïka, il y avait une glasnost, c'était très bien du côté soviétique, mais que nous, finalement, bah, enfin, l'histoire nous rattrapait, et que nous, dans notre perfection idéologique de démocratie libérale, notamment économique... Voilà, enfin, l'histoire nous avait donné raison. Il n'y avait pas besoin de faire de perestroïka et de glasnost chez nous. Et en fait, en dehors des éléments effectivement très choquants de l'illibéralisme politique de ces mouvements extrémistes, il y a une critique des élites qui est légitime. Parce que les élites ont comme fonction de protéger les gens qui les laissent être élites. Aujourd'hui, ce qui se passe avec la guerre en Ukraine... montre bien qu'il faut qu'il y ait des gens qui meurent dans une guerre, malheureusement. Et que donc, même des gens très très riches, s'ils veulent que leurs enfants soient protégés, il faut que quelqu'un d'autre se mette au milieu face au danger. Et donc, le pacte de la collectivité nationale, c'est un pacte qui est plus complexe que le pur libéralisme économique. Et je pense que le peuple juif, qui n'est pas seulement obsédé, enfin, qui n'est pas obsédé par l'argent... peut avoir un recul de ce que sont les élites dans les démocraties libérales et ce que sont leurs responsabilités. Voilà. Et je pense qu'il y a là une question qui est utilisée par les adversaires de démocratie libérale, qu'elle soit l'extrême-gauche ou l'extrême-droite, parce qu'on l'a vu dans les Gilets jaunes, la récupération du grand débat, etc., certaines questions passent sous la table et qu'on nie le droit de contester... les responsabilités des élites.
D'accord, mais à condition, si tu veux, de le faire, je dirais, d'un point de vue, d'assumer le point de vue politique de cette question des élites et de ne pas la réduire à une question sociale ou à une question, purement, purement éthique. C'est-à-dire de réfléchir à la question des élites, qui est évidemment l'un des fers de lance des populismes. Et là encore, je dirais, ça implique aussi de prendre le politique au sérieux. C'est-à-dire que, juste pour faire un pas de côté par rapport à ta question, il me semble que le gros problème qui est le nôtre aujourd'hui en France, c'est que c'est la dévalorisation du politique et même la dévalorisation du métier politique. Je veux dire, être politique, c'est un métier. Voilà, je pense que... il faut l'avoir appris. Et il faut l'avoir appris depuis le local jusqu'au national, je dirais. Il faut qu'on retrouve une forme de respect pour les gens qui font ce métier, ce qui implique qu'on les forme, ce qui implique qu'on les paye, ce qui implique qu'on les reconnaisse aussi pour l'engagement qui est le leur, dans l'intérêt général. Et d'ailleurs, on voit que maintenant, les gens commencent de nouveau à réfléchir à la question. Par exemple, il y a eu plusieurs propositions disant qu'il fallait remettre le cumul des mandats, le cumul de certains mandats. Et ça me paraît évident. Je veux dire, les politiques, ils ne peuvent pas être... ils ne peuvent pas être hors sol. Et quand on aura retrouvé le respect des politiques et de la politique, eh bien, on peut penser que, comme il y a quelques dizaines d'années, les meilleurs iront faire de la politique.
Mais... Ou certains meilleurs.
Certains meilleurs. Mais il en faudra, voilà. Ou pour de bonnes raisons.
Ouais, merci beaucoup. Peut-être pour pour rebondir sur la question, c'est vrai que moi, il y a un livre qui m'a beaucoup aidé, moi, à penser effectivement cette crise de la démocratie. C'est le livre de Yascha Mounk, qui s'appelle « Le peuple contre la démocratie ». Parce qu'en réalité, il admet que les questions qui sont posées parfois par les populistes sont parfaitement justes. Et notamment sur la question politique, le fait que les politiques, en réalité, se sont fait progressivement détacher de tout leur pouvoir, en réalité. Parce qu'aujourd'hui, un politique, en France, on va dire, disons un député, il a d'un côté les marchés, qui feront qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Et on a vu d'ailleurs, en Grande-Bretagne, Liz Truss, une première ministre, qui a dit « moi, je veux faire ça ». Et puis, en fait, en quelques semaines, elle s'est fait débarquer parce que les marchés ont considéré que c'était absolument inacceptable. Et c'est le cas dans tous les pays très endettés en Europe, etc. D'un autre côté, et c'est ce que Yascha Mounk dit, il dit, y a tout un tas de sujets qui ont été délégués à des autorités indépendantes, pour de bonnes raisons, parce que c'est des sujets très compliqués, comme l'énergie, comme les télécommunications, etc. Donc ce ne sont plus les députés qui décident, ce sont des autorités indépendantes du pouvoir politique. Et puis il y a un certain nombre de choses qui ont été aussi déléguées en Europe à l'Union européenne. Et il faut aussi pouvoir admettre que parfois, on est dans l'incapacité d'aller à l'encontre d'un certain nombre de dogmes qui ont été édictés au sein de l'Union européenne. Je peux prendre un exemple. C'est clair, par exemple, un sujet que je connais sur le marché de l'énergie, par exemple, le fait de dire sur le marché de l'énergie, il faut un des dogmes fondamentaux, c'est d'arriver à imposer une forme de concurrence interne à l'ensemble des États. C'est un sujet aujourd'hui sur lequel on est incapable de revenir. Et donc, on a un politique français qui, du coup, il ne peut rien faire parce qu'il y a les marchés qui l'empêchent. Il y a tout un tas de sujets qui lui sont interdits parce qu'elles ont été déléguées à des autorités indépendantes. Et puis, il y en a tout un tas de sujets qui ne sont plus de son ressort, qui sont du ressort de l'Union européenne. Plus, effectivement, son métier a été totalement déconsidéré. Enfin, à un moment donné, le peuple est quelque part légitime à dire « Bah, vous comprenez, moi... je veux bien qu'on me donne des élections, mais je vais élire des gens qui, de toute façon, ne pourront rien faire. » Le peuple, quelque part, est légitime à dire, comme ils l'ont fait à Grande-Bretagne, « Moi, je préfère encore que le pouvoir soit concentré dans mon pays et qu'il arrête d'être défini au sein de l'Union européenne. » Moi, parlant d'un lieu qui est un lieu, disons, allez, de l'élite économique, etc., je comprends ça, mais parfaitement, à 100%. La question, c'est comment ça se traduit dans des partis qui ne sont pas effectivement populistes, qui ne sont pas des menaces pour les libertés publiques. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, en fait. C'est que dès qu'on veut sortir un petit peu, on va dire, du mainstream politique dans lequel on a vécu pendant des années, on se retrouve directement avec des radicalismes dangereux. Mais les questions me semblent parfaitement légitimes.
Se réformer. D'autre part, je pense qu'il y a des arguments à répondre. Je crois que c'est là où la revalorisation du politique prend tout son sens, parce qu'on ne peut pas laisser l'économique tout gérer. C'est-à-dire que ce qui est arrivé avec la mondialisation, c'est qu'on a pensé que la mondialisation, c'était finalement le nec plus ultra, et la mondialisation non plus n'a pas tenu ses promesses. La démocratie, et c'est ce que j'explique au début du livre « Sagesse du politique », on l'a habillée d'habits trop grands pour elle. C'est-à-dire que la démocratie, on l'a confondue avec l'État-providence, on l'a confondue avec la croissance, on l'a confondue avec le bien-être. C'est pas ça, la démocratie. Et donc, il y a toute une pédagogie à faire autour de ce qu'est la démocratie. Et ça implique ce que j'appelle un changement de regard, c'est-à-dire ça implique que nous considérions que ce que nous jugeons être les faiblesses de la démocratie sont en réalité ses forces. Hein, ce que Dan évoquait tout à l'heure, le temps long, le débat, le doute, etc. Maintenant, s'agissant de l'Europe et... Il y a aussi des arguments tirés de la réalité, c'est-à-dire que ceux qui nous disent on est écrasé par les normes, on s'est suicidé industriellement, etc., etc. C'est vrai que il y a des choses aberrantes dans la politique européenne. Maintenant, et mon voisin de gauche appréciera, on pourra aussi dire aux gens que s'ils sont pas morts, c'est parce que l'Europe a pu, d'une part, leur assurer les moyens de survivre à l'épidémie de Covid et en plus trouver un vaccin. Donc finalement, bon, l'un dans l'autre, on peut penser quand même qu'elle a quelques avantages. Et c'est à nous aussi, c'est à nous de les assumer. Mais je dirais encore une fois, l'Europe... Évidemment, si vous la laissez incarner uniquement par la politique agricole commune et les normes énergétiques, on se flingue, on n'a pas envie d'être européen. Mais l'Europe, c'est aussi autre chose. Donc il y a aussi un projet européen, je pense, à construire. Et là encore, je dirais que les intellectuels ont quand même été les ennemis de la démocratie et les ennemis de la démocratie européenne. Il y a quand même un moment où les intellectuels ont cherché à dézinguer la nation, ont expliqué qu'on était dans un monde où il n'y aurait plus de frontières, etc., etc. Ce qui était très idéologique, là aussi, comme position. Donc je crois que... je sais pas, moi je trouve que les choses sont toujours assez triviales et ça peut être un peu déceptif, mais si vous expliquez aux gens que bah, ils ont eu de la chance, ils sont pas morts parce qu'ils ont eu un vaccin contre la Covid. Il y a eu les Américains, oui, mais il y a eu aussi l'Europe, il y a eu aussi cette solidarité, le fait que des gens ont été soignés dans d'autres pays, il y a eu voilà. Et les salaires ont été payés pas par les Américains mais par le budget européen, ce que n'aurait pas pu faire le budget français. Donc voilà, je pense que on a toujours des arguments. Bon, ils sont pas forcément très glorieux, mais je trouve que voilà, ils existent. Avec l'idée évidemment que, je veux dire, la démocratie c'est pas la perfection. La démocratie, c'est un régime perfectible. Et donc, c'est toujours un régime déceptif. En même temps, je veux dire, Jean-Luc Mélenchon est très, très heureux de pouvoir critiquer le régime politique français, le régime politique européen, mais il ne le fait pas depuis Tiananmen. Il préfère quand même rester ici. C'est donc qu'il y a une raison, quoi. Enfin, bon. Donc, il y a un moment où... voilà, c'est ce que je disais, quand on fait appel à la réalité des choses, bon, il y a... C'est quand même pas contestable, me semble-t-il.
Merci pour votre intervention. Je vais essayer de dire des petites choses, mais peut-être elles n'ont pas de rapport entre elles, mais enfin, c'est des associations que j'ai eues. Je vais peut-être commencer par des questions. En fait, vous avez parlé du juif, du silence dépossédé des valeurs juives. Alors, moi, je voudrais que vous précisiez qu'est-ce que vous entendez par valeurs juives. Je termine et puis après vous avez dit le message du judaïsme. Qu'est-ce que vous entendez par le message du judaïsme? Et puis après vous avez dit la philosophie pratique du judaïsme. Qu'est-ce que vous entendez par la philosophie pratique du judaïsme? Alors il y a aussi une chose, c'est que depuis le début du débat on parle beaucoup de la démocratie. Et le thème, c'est la démocratie, pas tellement des juifs. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que ce que vous dites, d'abord, fait écho à un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Tenir tête de Paul Audy, qui est absolument incroyable, je trouve, que vous citez les mêmes sources, pratiquement. Voilà, donc son travail en tant que non-juif. Donc, vous voyez, les valeurs juives, elles sont... Mais ce qui est intéressant, c'est que ce livre-là, je pourrais en citer deux autres, qui seraient « Être autre » de Henri Enfeld sur la singularité juive, c'est son sous-titre. Et je pourrais citer l'œuvre de Béni Lévy, qui, d'une certaine façon, s'est déconstruit lui-même. et pour arriver à une vraie réflexion. Alors, les deux autres aussi font ce travail-là. C'est-à-dire que, vous voyez, vous avez parlé de Léon Poliakov qui parle de l'antisémitisme et qui parle de l'Antiquité. Mais ce n'est pas suffisant. Ça n'explique rien. On est toujours dans une espèce d'essayer de décrire de façon historico-politico-sociologique la mutation de l'antisémitisme. Ce qui est étonnant d'ailleurs, ce qui est l'Antiquité, c'est la Grèce quand même, la philosophie, démocrate, juif, la Grèce. Ça va pas très bien ensemble. C'est-à-dire qu'on va pas plus loin. On se pose pas la question, et eux se posent la question, je trouve, de remonter bien avant l'Antiquité et d'essayer de voir dans les textes juifs qu'est-ce qui est tout expliqué, tout est dit. Ce que dit Paul Audy, on le trouve dans les textes juifs, et les juifs qui étudient le savent depuis très longtemps. Mais on est des laïcs. Les juifs sont beaucoup laïcs, ces juifs du silence, ces juifs du siècle, comme parle Béni Lévy, se sont privés de cette connaissance. Et au lieu d'interroger tout ce qu'il y a autour de nous pour parler en tant que juifs démocrates, on reste toujours dans la même chose, les mêmes explications, et on parle de politique, de trucs comme ça. Et on se prive. Si on est là, c'est pour agir comme démocrate juif. Mais juif, alors quelles sont ces valeurs juives? C'est quoi cette philosophie pratique? De quoi parle-t-on?
Je vais tout dire. Alors, je pense qu'il y aura autant de réponses que de gens autour de cette table.
Il est évident qu'on ne peut pas réfléchir sur le judaïsme sans réfléchir en partant des textes. Mais après, tout dépend les questions qu'on pose à ces textes. Moi, j'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur ce que j'ai appelé, par analogie, la science du judaïsme français. C'est-à-dire des gens dont on a beaucoup dit pendant très longtemps dans l'historiographie du judaïsme qu'ils s'étaient assimilés à la France et qu'ils en avaient oublié leur culture juive, c'est-à-dire les gens qui sortaient des communautés traditionnelles à la fin du XVIIIe siècle et puis qui entraient dans la société civile. Or, on voit très bien que ces juifs ne cessent de travailler avec le judaïsme. Mais je trouve que ce qui est... Je n'ai absolument aucune prétention d'érudition et de connaissance des textes. Il me semble qu'il y a une spécificité quand même du judaïsme, et précisément, c'est ce que vous... Je crois vers ça que vous faites signe, c'est que nous pouvons... nous appuyer sur les textes parce que nous pouvons les interpréter. Et si vous voulez, c'est ce qui permet en fait de franchir les époques, de franchir cette frontière auxquelles d'autres se heurtent, qui est la frontière entre tradition et modernité. Et donc, c'est ce qui nous permet, je dirais, de reformuler toujours ce qui est notre modernité, et qui est non seulement une modernité collective, mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une modernité individuelle. Et que cette modernité individuelle, encore une fois, on aura tous une réponse différente. Mais je crois que c'est ça, pour moi, le message du judaïsme, c'est-à-dire, c'est ce qu'on peut trouver peut-être un peu tarte à la crème, mais cette idée d'une ouverture, cette idée d'un échange, d'une discussion, tout en ayant conscience de la force que peut fournir une tradition, une histoire et une singularité. Et c'est là où les Juifs rencontrent évidemment la démocratie, mais où ils ne se confondent pas avec la démocratie. La démocratie repose sur la reconnaissance des individus, et je crois que le judaïsme repose sur la reconnaissance de la singularité, ou du moins je dirais, c'est comme ça que moi, je le traduirais, mais en reconnaissant tout ce que ça peut avoir d'insatisfaisant. Voilà.
Je sais, je vais... Merci pour votre exposé qui a beaucoup de mérite et aussi le mérite de mettre de la clarté dans une situation trouble, et en particulier par rapport aux Juifs et par rapport à la démocratie. C'est vrai que nous sommes dans le trouble. J'ai une question à vous poser, mais je ne vais pas tout de suite vous la poser. Je vais quand même vous donner mon sentiment par rapport à votre intervention. Je ne suis pas du tout convaincue. Je trouve votre combat méritoire, mais je crois que c'est un combat d'arrière-garde et c'est un combat qui me semble perdu. Donc je ne veux pas discuter de ça, mais c'est mon sentiment, si vous voulez, très profond. Je crois que vraiment, nous n'en sommes plus là. La deuxième chose, c'est que dans votre description, justement, au niveau philosophique de ce que vous mettez dans le contenu juif, l'horizon, c'est la Shoah. Mais... Et c'est vrai que ça joue un rôle extrêmement important dans la vie intellectuelle, surtout en France, mais il y a un au-delà de la Shoah. Donc c'est cet au-delà-là qui fait problème, à mon avis, aujourd'hui, et qui est difficilement audible et qui a du mal à percer. Et maintenant, j'en viens à ma question. Ça, c'est mon sentiment sur lequel je ne veux pas discuter parce que ça ne me semble pas le fond de l'affaire. Vous avez dit, c'est là-dessus que je vous... Voilà. Les actes antisémites sont des actes de protestation contre le régime démocratique qui est, lui, au banc des accusés. Et là, vous avez pointé la responsabilité des milieux intellectuels et politiques. Et ça m'intéresse. Si vous pouviez expliquer un petit peu ce que vous voyez là. Merci beaucoup.
Je pense que y a une situation qui est spécifique aux intellectuels français. D'ailleurs, pas seulement aux intellectuels non juifs, mais aussi aux intellectuels juifs, ressortit de l'histoire française, notamment de l'histoire de la gauche française, évidemment du moment qui correspond à la fois à l'affaire Dreyfus et à la formation moderne des partis politiques. Or, vous savez que la gauche en France a eu une histoire très, très particulière dans la mesure où la SFIO s'est formée, au moment où la SFIO se forme, elle se forme à l'écart des syndicats et contre les syndicats. Les syndicats ne veulent pas rejoindre la SFIO. À cela s'ajoutent en 1920 les conditions posées par la Troisième Internationale et la scission donc entre la SFIO, la vieille maison que garde Blum, et la SFIC, donc le Parti communiste. Or, il y a donc pour des raisons historiques, pour des raisons intellectuelles, et on le voit aujourd'hui avec LFI, c'est exactement ce qui se passe. La peur chez les politiques et les intellectuels de ne jamais être assez à gauche, si je puis dire, d'être toujours dépassé par sa gauche. C'est-à-dire qu'il y a une forme de complexe chez ceux qui pourraient porter des réformes sociales, un programme social ou socialiste, de ne jamais être assez radicaux. Ça a été le cas donc de la SFIO par rapport à la SFIC, alors que la SFIC était beaucoup moins puissante en réalité. Ça a été le cas, sauf au moment où Mitterrand a utilisé le programme commun de la gauche finalement pour phagocyter le Parti communiste. Et alors on le voit aujourd'hui entre le Parti socialiste et LFI. Je veux dire, le problème des socialistes, c'est d'être toujours dépassés sur leur gauche. Donc il y a eu ce problème-là qui tient à l'histoire spécifique de la gauche en France. À cela s'ajoute évidemment l'histoire de la décolonisation et le problème de la guerre d'Algérie. Et l'engagement des intellectuels, cette idée que les intellectuels sont des intellectuels critiques, et donc sont des intellectuels critiques du pouvoir politique, et que le pouvoir intellectuel s'oppose au pouvoir politique, liée aussi donc à la mauvaise conscience de la décolonisation. Et je dirais, tout ça fait que nous avons un monde intellectuel qui se situe par référence toujours à gauche, très rarement à droite. Hein, les gens ne ils commencent à se réclamer de la droite, où on a vu le club de l'horloge dans les années 80, mais ça reste quand même très, très minoritaire. Et puis, à ça, je dirais, une chose assez méchante pour les intellectuels, c'est leur déclassement. Parce qu'en fait, les intellectuels, tout le monde s'en fout. Je dirais, d'abord, ce sont des gens qui ne sont pas payés. Et c'est des gens qui ont vécu donc une paupérisation depuis les années 60 ou les années 80. Hein. Bon, on n'a plus Foucault, on n'a plus Aron, on n'a plus Sartre. Et donc maintenant, ces intellectuels, finalement, ils manquent de reconnaissance. Ils manquent de reconnaissance financière, ils manquent de reconnaissance sociale, ils manquent de reconnaissance intellectuelle. Et donc la seule chose, finalement, qui peut les faire exister, hein, tout comme sur les politiques, sur la scène politique, c'est la radicalité. Et donc voilà. Et si vous allez tenir le discours inverse, eh bien, vous êtes ostracisé. Bon, c'est ce qui s'est passé pour Raymond Aron. Hein. Raymond Aron a écrit « L'opium des intellectuels » en 1955, où il montrait que les communistes, c'était des hommes de croyance, des hommes de foi, des gens qui, finalement, comme les chrétiens, croyaient au salut, mais eux, c'était un salut immanent par la victoire du prolétariat. Il a été mis au banc de la classe intellectuelle et il n'a plus jamais pu remettre les pieds à l'école normale jusqu'à sa mort. Voilà, je veux dire, c'est... voilà, il y a des conditions politiques, il y a des conditions intellectuelles, et je crois qu'il ne faut pas négliger les conditions sociales d'un milieu qui est en voie de paupérisation quasi absolue, à part quelques-uns.
Alors, j'ai une question qui renvoie un peu aussi à votre question et au complément, que vous avez apporté. J'aurais bien aimé que vous reveniez sur... il me semble que vous avez dit qu'à l'époque de l'affaire Dreyfus, on avait une perte de... que les Juifs avaient cessé de s'intéresser aux textes juifs. J'aurais bien voulu vous entendre là-dessus. J'aurais voulu savoir dans ce même esprit si l'invisibilisation des années 60-70 était aussi le fait juif lié à ce qu'on imagine, c'est-à-dire de nouveau, mais là on comprend mieux pourquoi, une absence, en tout cas une perte de l'étude de texte dans l'époque qui a suivi la guerre. Et j'ai une autre remarque ou une autre question qui s'adresse à vous, peut-être moins en tant que philosophe qu'en tant qu'ancienne élève de Normal Sup. Et... Ah bon, voilà. Bon, enfin, en tout cas, bon. Mais vous, peu importe, vous allez voir que... Voilà. On a, en tout cas, me semble-t-il, de ce point de vue-là, plutôt de bonnes nouvelles. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une revivification de l'étude et certainement de l'observance en France. Et donc ça, je pense que c'est une très bonne chose. Mais j'ai deux petites remarques. La première, c'est que moi, je pense qu'il y a quelque chose qui fait fuir les jeunes juifs observant bien plus que l'antisémitisme. C'est le fait qu'ils ne peuvent suivre aucun parcours d'études diplômant. Et ça, moi, il me semble que c'est catastrophique. Voilà, mais je sais que la réponse n'est pas simple. Et la deuxième chose, qui n'a rien à voir, c'est de dire que si on doit mettre en avant les valeurs juives, l'apport juif, etc., je pense qu'il faut absolument le faire avec et pour des non-juifs. Moi, il me semble, et je le vis encore plus depuis le 7 octobre, que c'est vraiment l'entre-soi, c'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes arguments entre nous, etc., et on ne parle pas assez à des non-juifs. et peut-être en contradiction avec ce que j'ai dit avant, mais bon, ça c'est le destin juif. Simplement mon expérience, parce que j'ai travaillé dans un milieu essentiellement non juif, de français, de on va dire ce que j'ose plus appeler de souche, mais enfin au moins ça dit ce que c'est, hein, de français, de plutôt du centre, qui n'avait pas d'a priori particulier contre les juifs, mais le juif, c'est quand même celui qui s'exclut par deux choses. Moi, on m'interrogeait sur deux choses, hein. C'est le fait de ne pas pouvoir partager la table d'un juif. Je vois parce que dans mon équipe, j'avais un juif observant et bien sûr, il ne déjeunait pas à la cantine. Ça, c'est une forme de vexation, c'est-à-dire qu'on sait que partager la table, c'est quand même quelque chose d'important. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième forme d'exclusion, on me posait toujours la question, est-ce que tu accepterais que tes enfants épousent des non-juifs ? Voilà. Alors, je ne sais pas si c'était clair. En tout cas, c'était des exemples pour dire qu'il faut aussi, il faut que ces valeurs, on les porte aussi à l'extérieur. Voilà.
Merci beaucoup, c'est trop gentil.
C'est toujours ce qui est compliqué dans la dialectique du même et de l'autre, hein. C'est ça. C'est-à-dire, il y a toujours un moment, c'est très dur d'accepter, je dirais, la singularité. Et c'est peut-être la différence que je ferai et que j'avais commencé à faire entre identité et singularité. Voilà, c'est de renvoyer la singularité à quelque chose de positif, là où l'identité maintenant est devenue un marqueur qui est très un marqueur d'assignation réellement et qui montre des différences. Sur la question des études juives, c'est extrêmement intéressant parce que qu'est-ce qui se passe au moment de l'affaire Dreyfus ? Eh bien, que ce petit groupe de juifs qui ont joué un rôle très important dans l'histoire intellectuelle de la France, puisque c'est eux qui ont amené l'étude des langues orientales, c'est eux qui ont amené l'étude de l'histoire ancienne, des religions anciennes, que ce soit à l'école pratique des hautes études ou au Collège de France, c'est eux qui fondent l'orientalisme, mais s'intéressent toujours des disciplines qui ne concernent pas directement le judaïsme, mais étudient toujours le judaïsme à l'intérieur de ces disciplines. Je prends l'exemple, hein, de quelqu'un comme Théodore Reynac, qui fait de la numismatique, qui travaille sur les monnaies anciennes grecques. Mais à l'intérieur de son travail sur les monnaies anciennes grecques, il travaille quand même sur la place des Juifs dans la Grèce ancienne, etc. Donc il retrouve toujours, en réalité, le judaïsme. Et c'est pour eux une manière à la fois de faire entrer le judaïsme dans la modernité par la science, mais de montrer que le message du judaïsme est un message qui est toujours pertinent à la fin du XIXe siècle. Au moment de l'affaire Dreyfus, tout ce cercle de gens se trouve, c'est le cercle de la revue des études juives, hein, qui est fondée en 1880, se trouve intégré ou rejoint par le cercle des Dreyfusards. Et à ce moment-là, va se passer une sorte de métamorphose qu'on voit très bien chez quelqu'un comme Bernard Lazare, par exemple. Bernard Lazare, il écrit en 1894 « L'antisémitisme, son histoire, ses causes ». Mais et c'est l'un des premiers Dreyfusards, c'est le premier Dreyfusards avec Mathieu Dreyfus. Mais à un moment, il va en quelque sorte métamorphoser, je dirais, l'éthique qu'il dégage de l'étude des prophètes. C'est aussi vrai de quelqu'un comme James Darmstadter, qui était spécialiste du Zen d'Avesta, qui a fondé cette discipline au Collège de France, pour montrer comment le prophétisme juif vient en quelque sorte irriguer la question sociale, la question sociale et socialiste. Et donc Bernard Lazare va, je dirais, glisser de l'histoire du judaïsme vers des écrits qui promeuvent une sorte d'internationalisme, en fait, socialiste, une éthique social internationaliste. Donc ils vont penser finalement que la politique prend le relais et qu'il n'y a plus besoin de maintenir ces études juives. Il y a aussi le fait qu'en France, c'est un pays de tradition catholique et non pas de tradition protestante. Alors, évidemment, en Allemagne, la Wissenschaft des Judentum a eu un rôle beaucoup plus important et les Juifs sont restés beaucoup plus proches de l'interprétation des textes parce que ça correspondait au caractère du protestantisme, là où le catholicisme vous dit, vous avez une autorité qui vous dit ce qu'il faut comprendre du texte révélé et puis vous cherchez plus. Voilà. Ensuite, les Juifs étaient intégrés dans la société civile beaucoup plus tôt que dans les autres pays, donc ils ont pu faire d'autres choses que des études juives. Ils ont pu faire des études juives à l'intérieur, comme je l'ai dit, de l'université française ou du Collège de France, alors qu'en Allemagne, on leur a jamais permis d'intégrer l'université à moins de se convertir. Hein. On voit l'exemple de Jacob Bernays, l'un des plus grands philologues quand même du 19e siècle, juif, ben, il reste bibliothécaire parce qu'il ne peut pas devenir extraordinaire. Donc voilà. Et donc le début du XXe siècle, cet engagement patriotique, politique finalement, amène les Juifs à se détourner de ce qu'on pourrait appeler les études juives. Et en réalité, ils ne vont jamais les retrouver. C'est ça qui est tragique. Les Juifs, après la Seconde Guerre mondiale, on a des grands érudits juifs. Pierre Vidal-Naquet travaille sur la Grèce. Jean Bollack travaille sur la Grèce. Il n'y a que Niki Provetsky qui travaille à l'EPHE sur... il y a Gilbert Dahan, il y a des gens comme ça, mais on les compte sur les doigts, vraiment sur les doigts d'une main. Et je veux dire, les études juives, elles n'ont jamais eu droit de citer en réalité en France, et ça tient aussi au fait que l'historiographie républicaine ne reconnaît pas de rôle, enfin, elle considère que le religieux est une forme de trou noir. D'accord ? Et je crois que ça, c'est une des choses sur lesquelles on essaye de travailler en ce moment. C'est-à-dire d'essayer de repenser, de réintégrer le religieux dans le monde, dans le paysage intellectuel français, où il a complètement, complètement disparu. Et ça, ça me paraît extrêmement important.
Est-ce que ça conduit à avoir une nouvelle définition de la laïcité ? Ou est-ce que ça peut se faire dans le cadre actuel ?
Moi, enfin bon, mais ça c'est très personnel, je pense que la laïcité doit rester... Je suis contre toutes les formes d'accommodement. Je suis contre toutes les formes d'accommodement parce que de toute façon, on sera toujours perdant. Pourquoi ? Parce que déjà, démographiquement, on sera perdant. Donc, bon, je veux dire, il faut tenir bon sur ce qui est le fondement de la République. Enfin bon, ça, c'est Jonathan qui peut répondre mieux que moi, mais...
Mais vous pensez avoir dans ce cadre-là suffisamment de liberté pour...
Ah, la liberté, on a toute la liberté qu'on a, mais on n'a personne. Encore que, on a quand même des gens.
Ça doit rester un exercice savant.
Oui.
Qui se déploie dans un contexte savant, et pas un exercice de piété ou une démonstration fidéliste.
Quand vous dites on a personne en étudiant.
Bon, on a des étudiants quand même, j'exagère. Maintenant, on commence à avoir, oui, on commence à avoir des étudiants. Mais c'est vrai que les études juives, c'est les parents pauvres, je dirais, de ce type d'études en France.
J'ai l'impression que madame posait une autre question.
Oui, j'ai une autre question.
Ah. Attendez, est-ce que j'ai bien compris ? Votre question, c'était la situation actuelle des étudiants juifs qui peuvent pas...
Ah, alors ça, c'est...
Je vais juste pour alerter sur ce sujet-là.
Ça, c'est les politiques qui auront une réponse.
Là, tu veux dire un mot sur ces sujets ?
Faut-il leur poser la question et avec ce voilà.
Je sais.
Je voudrais essayer de parler de façon simple, donc un petit peu trop orthogonale, mais enfin, il faudra essayer de me suivre. Disons que la domination... Si on prend l'hypothèse que la domination idéologique procède de la domination économique, c'est pas une certitude, mais si on voit le monde comme ça, si on voit que aujourd'hui la Russie, par exemple, a une influence majeure en politique internationale, dans les comportements des diplomates. Si l'on voit que dans les temps antérieurs où la France, l'Europe étaient dans une situation de domination et où le juif se sentait bien parce que les valeurs idéologiques qui étaient associées à cette domination nous convenaient, si on voit par ailleurs que du fait de la décolonisation qui nous coupe de tout les minerais, tout ce qu'on veut, du fait du social, l'Europe et la France sont menacées d'avoir perdu, sur le plan mondial, leur valeur ajoutée. C'est-à-dire, on ne voit pas aujourd'hui qu'est-ce qui va être la valeur ajoutée de notre pays. Donc, à ce moment-là, on comprend que, bien que ce soit très schématique, on comprend qu'il y a un sentiment général dans lequel notre modèle va se transformer. Notre modèle qui était basé sur justement la culture, une certaine idée de l'identité, et tu as parlé trois fois de l'identité, et ça me semble très intéressant, parce que la question de l'identité, tu as parlé de la déconstruction de l'identité, puis on peut dire qu'une certaine gauche idéologique est restée dans cette ligne. Par ailleurs, on voit qu'il y a dans la démocratie une concurrence des idéologies, donc un pluralisme des idéologies, c'est-à-dire que le pluralisme, c'est un pluralisme idéologique, et que donc face à ce pluralisme idéologique, il y a un appel inverse qui est l'appel à une autre forme d'identité, qui est l'unité en quelque sorte, et donc on voit très bien les deux tendances qui s'ouvrent devant nous, et donc la question, et je reviens un peu à ce que j'ai cru comprendre d'ailleurs ce que disait Madame tout à l'heure, c'est-à-dire si on se met dans cette perspective historique, quel est le changement qui va advenir du point de vue idéologique et quel est, en tant que juif, comment anticiper ce changement et quelle place on doit y prendre.
Non, mais il me semble d'une part que, je veux dire, il y a des lignes de force et il y a des invariants. Et donc c'est ce que j'essaye de dire quand je dis que le politique doit prendre le pas sur l'économique, parce que les changements dont tu parles, ce sont des changements qui sont, économiques, mais tu en donnes une interprétation, on peut décider d'y répondre politiquement, soit en s'y opposant, soit en s'y adaptant, mais en restant, je veux dire, sur une forme de défense des valeurs. Je pense qu'il n'y a pas 36 positions philosophiques, il n'y a pas 36 visions de l'homme. Il y en a deux. L'une qui considère, et qui est celle quand même des régimes autoritaires, et qu'on a vu illustrer au XXe siècle, qui considère que finalement, si tu veux, sont les plus forts qui prennent le pouvoir, et que c'est dans la nature de l'homme. Et donc ça renvoie à une vision de l'homme. Et puis ceux qui considèrent au contraire, du côté de la démocratie, que le projet de l'humanité, c'est celui de son émancipation. Et donc ça repose sur une vision positive, même si elle n'est pas irénique, de l'homme. Donc je pense qu'effectivement, je veux dire, il y a des changements, il y a des évolutions, mais qu'au bout du compte, le combat, c'est toujours celui-là. Et donc que le judaïsme, je pense, se trouve d'un côté et pas de l'autre. Qu'on le prenne d'ailleurs par tous les bouts, ceux qui se sentent, qui se rattachent au judaïsme d'un point de vue religieux, ceux qui s'y rattachent d'un point de vue culturel. Je veux dire, ce qui est quand même à la base, c'est le libre arbitre, c'est la séparation avec la transcendance, c'est l'accent mis sur l'esprit critique, sur le pluralisme des lectures. Je pense qu'il y a quand même un accord. bon, sur ce que moi j'appelle le projet juif, on peut lui donner évidemment plein d'autres noms, mais sur la manière dont le judaïsme ne se construit pas contre le monde et ne se construit pas contre les autres. Bon, je ne suis pas convaincue.
Je voudrais faire une interpellation bienveillante, mais qui se terminera par une question auquel pourra répondre peut-être M. Harfi aussi. Je voudrais parler d'un écueil générationnel. Je m'explique. Au début, vous avez démarré par mettre dos à dos les partis populistes, ce en quoi je suis d'accord avec vous. Et puis, dans votre développement, la balance négative a plutôt pesé sur les indigénistes, les wokistes, Butler, Sartre, un petit peu plus à gauche. On va le dire comme ça. Très bien. Très bien. Mais il n'y a pas de, souci. Nous avions fondé, il y a quelques années, avec mon épouse, un mouvement contre le Front National, qui s'appelait Réponse citoyenne. Aujourd'hui, quand je parle avec mes frères et sœurs, qui sont tous plus âgés que moi, il n'y a pas besoin de discuter très longtemps pour être en consensus. Lorsque je parle à nos enfants et à leurs enfants, le débat est un petit peu plus houleux, mais ils arrivent à se ranger à cette idée qu'on peut renvoyer dos à dos ces deux parties. Mais lorsqu'on parle à la troisième génération, ils ne voient pas ni Bardella, ni Julien Odoul, ni autres, comme des diables. Et on a beaucoup de difficultés à renvoyer ces deux parties dos à dos. Donc, et pourtant, dans des élections, le CRIF donne des consignes en les renvoyant dos à dos. Il y a un écueil générationnel, pas que générationnel, parce que ça ne touche pas que les jeunes. La communauté change d'avis. À mon sens, elle a tort, mais elle change d'avis. Est-ce que dans la communication, dans les consignes, il ne faudrait pas dire « on renvoie ces deux parties dos à dos », bien que nous considérons aujourd'hui LFI comme plus dangereux que le RN. Ai-je tort de poser cette question? Sachant que j'en suis pas d'accord. Hein. C'est une interpellation bienveillante qui veut une réponse.
Électoraux. D'abord, moi, j'essaie d'éviter la rhétorique et la grammaire d'instruction de vote, enfin de consigne de vote, enfin, qui laisserait penser qu'on aurait régressé, qu'il n'y aurait plus la primauté de l'individu quand même et de son libre arbitre personnel. Donc les juifs sont des citoyens comme les autres et ils votent individuellement. Ce dont, en revanche, les institutions juives ont la responsabilité, c'est les valeurs juives. Enfin, c'est pas, et donc, quel que soit le vote des juifs individuellement, après tout, les valeurs juives peuvent dire quelque chose qui est autre. Et je suis assez à l'aise avec le fait de dire que la position des institutions, elle n'est pas dictée par le vote populaire juif. Donc et ça, il faut l'assumer. Alors, pas le... faire un sujet de rupture avec la communauté, mais on peut être de temps en temps, il pourrait arriver théoriquement qu'on soit à contre-courant. Je cite là-dessus ce qu'avait été la réflexion du grand rabbin de France une fois où j'étais avec lui et on était interpellé précisément sur la question du Rassemblement national où des gens venaient nous voir en disant, mais alors, avec l'exagération qu'il y avait dans le propos, mais 80% des juifs vont voter RN, vous devez changer de position. Il avait répondu assez justement, 80% des juifs ne mangent pas cachère, est-ce que vous pensez qu'un rabbin de France doit dire qu'il ne faut pas manger cachère? Et je trouve l'analogie assez juste. Au fond, moi, ce dont j'ai la garde, entre guillemets, c'est le fait de veiller à ce que les valeurs juives, l'histoire juive, ne soient pas entre guillemets... associés à des choses qui leur soient contraires. Après, la deuxième partie de votre question, elle est plus... c'est plus une question rhétorique. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit de concéder quelque chose dans le propos sur la dangerosité de l'un par rapport à l'autre? Moi, je pense que réduire ça au même combat, c'est assez inaudible. même si je pense qu'il y a quand même évidemment des dynamiques populistes qui sont partagées par l'extrême gauche et l'extrême droite, je me rends compte qu'effectivement c'est inaudible. Alors, quelqu'un m'a donné une fois une formule qui m'a beaucoup plu, qui dit on a aujourd'hui une extrême droite de droite et une extrême droite de gauche, qui dit quand même ce qu'il y a de commun chez LFI et ORN, mais je me rends bien compte que ça ne parle pas à une partie de la communauté. Et donc, ce que je privilégie, c'est de dire, le peuple juif a toujours mené toujours dû mener des guerres sur plusieurs fronts à la fois. Ça ne veut pas dire que les fronts ont tous la même intensité au même moment. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous strictement équivalents. Mais il n'empêche qu'on a quand même la responsabilité de mener ces différentes batailles. Et en l'occurrence, en ce moment, le plus aigu est sans doute celui de la France insoumise, parce que le parasitage qu'il produit du débat public génère des passages à l'acte et de la violence. Il n'empêche que ça ne désamorce rien ou ne réduit rien de la gravité ou de la profondeur du différent et de la bataille avec le Rassemblement national, qui se réveille nécessairement dans les moments dans les moments électoraux. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de tenir cette ligne en essayant de faire un peu de pédagogie, mais je constate comme vous que ça a ses limites parce que, in fine, les Français juifs sont aussi des Français comme les autres, et quand le Rassemblement national fait 42% de l'opinion, enfin des votes en France, ben forcément il en fait aussi chez les juifs plus qu'avant.
Perrine, vous voulez?
Les jeunes générations, les jeunes juifs qui étaient quand même très engagés du côté de LFI sont un peu revenus sur leur vote lors des dernières élections. J'ai l'impression que le facteur de l'antisémitisme...
En fait, c'est plus, moi, sur les jeunes qui ne ressemblent pas, les jeunes du Front National, Bardella, Oudoul, comme des démons. Ils ne ressemblent pas ça.
Ça, c'est intéressant, parce que je pense que c'est vrai, Perrine, sur la démocratie et tout, il y a quelque chose que tu n'as pas du tout abordé, qui sont finalement tout ce qui est les réseaux sociaux, tout ce qui mine la démocratie d'une manière permanente, violente.
Ça, c'est des choses qu'on... Voilà, je suis d'accord. Mais
ce truc-là, je pense, monsieur, vous faites allusion à ça, parce que Bardella, sur les réseaux sociaux... Il est très sympathique.
Ouais.
Et moi, j'ai entendu des jeunes dire « Oh non, mais moi, je vote pour lui. Il est trop chou, il est trop chouette. » Mais comme ça. Absolument. Et la démocratie, comment faire avec ça,
Et puis, il y a quand même le retrait pour cause d'âge du père Le Pen, qui pour beaucoup était quand même un affreux du monde politique, un repoussoir. Et par conséquent, quand on avait encore la mémoire du père Le Pen, on ne pouvait pas voter pour quelqu'un qui... etc. Aujourd'hui, il a reculé, Oudoul l'a remplacé, Oudoul tient sur le 7 octobre des propos auxquels on pourrait souscrire. Donc effectivement, ça nous met dans une situation...
J'ai entendu dans une
synagogue un mot qui peut-être va vous choquer, mais qui nous a fait rire sur le moment. Oudoul la chaîne qui tombe.
C'est un petit peu... Oudoul, toi ?
Bon, vous l'avez peut-être entendu, moi je l'ai entendu. On n'aurait jamais envisagé de faire une plaisanterie comparable sur l'homme qui avait dit que la Shoah était un point de détail. Donc effectivement, ça c'est un...
Non mais il y a quand même... moi je trouve qu'il y a des arguments qu'on peut avancer. D'une part sur la duplicité du Rassemblement national, il faut renvoyer les gens voir quels sont les votes des députés du Rassemblement national à l'Europe. Et alors là, c'est très très net, ils votent contre les libertés publiques, contre les droits des femmes, contre l'égalité, contre l'accroissement du salaire des agriculteurs, contre... Enfin voilà, donc...
Et on saura demain par le vote du RN, peut-être...
Donc, je veux dire, il y a des faits. Il y a des faits et ils sont incontestables. Donc maintenant, c'est sûr qu'ils se tiennent mieux... en France qu'à l'Europe.
Il ne faut pas abandonner l'argument moral. En fait, on a tendance à chercher des raisons techniques, objectives, de convaincre sur le vote du rejet du vote RN. Enfin, la question
morale reste, et moi je dis souvent à nos interlocuteurs juifs, mais quand bien même ils ne seraient plus antisémites, ce que je ne veux pas leur concéder parce que je pense qu'il reste une part évidemment d'antisémitisme dans l'environnement et dans l'ADN du Rassemblement national, mais quand bien même il ne serait plus, le simple fait qu'il reste un parti fondé sur un projet d'exclusion suffit en lui-même à ce que le judaïsme et tout ce qui va avec s'en tiennent à distance. Voilà. Après, que des juifs votent pour eux, ben, il y en a toujours eu, qu'il y en ait un peu plus ou un peu moins, j'ai envie de dire. Le judaïsme, il va au-delà de ses choix individuels. Et le simple fait que le projet reste fondamentalement adossé à un projet d'exclusion suffit à le discréditer ou disqualifier aux yeux des valeurs juives.
Le juif s'est trouvé dépossédé de ses caractères après la Shoah et dans les années 60-70, comme tu l'as montré. Et aujourd'hui, il faudrait renouer avec un projet juif, mais tu ne vas pas jusqu'à dire qu'il faudrait renouer avec une identité juive. Tu as même fini en disant « ça n'est pas une essence, ça n'est pas une identité ». Et j'ai envie de te dire, pourquoi pas assumer, au fond, quelque chose comme une identité, une essence. Qui dit une identité ne dit pas forcément que les juifs seront aussi figés qu'une pierre. Mais au fond, ça appellerait la réappropriation de toute la culture dont il était question tout à l'heure, c'est-à-dire, au fond, former un juif, former un individu juif qui soit en pleine possession de sa tradition, au-delà de la Shoah, justement. La Shoah n'est pas le seul contenu de la mémoire juive, mais de ses textes, de sa langue, de son histoire. Bref, une manière assumée de revendiquer cette histoire, de la maîtriser. Je crois même, et ça c'est une conviction profonde, que ce qui se passe en ce moment doit inciter les écoles juives, par exemple, à un nouveau projet pédagogique. C'est-à-dire qu'il faut former nos enfants à autre chose qu'à ce à quoi ils ont été formés jusqu'à présent. Parce qu'ils vont avoir à affronter des temps tout à fait différents et ils doivent être armés d'une façon différente, avoir un rapport même aux humanités occidentales peut-être un petit peu différent, un rapport aux choses juives différent. Ça passe pas forcément par la pratique, mais ça passe par une maîtrise de notre histoire. Et alors pourquoi ne pas appeler ça, au fond, quelque chose comme une identité ou une essence? Et est-ce qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain quand on refuse ces concepts? Peut-être que ma question n'est que rhétorique.
Oui, enfin, c'est-à-dire que je n'employais pas le mot identité, notamment dans ce livre, parce que, voilà, pour moi, l'identité, ce sont les philosophies de l'identité qui essentialisent, voilà, mais conçu comme ça, ça, évidemment, je veux dire, c'est
Mais alors, du coup, ça dessine pour nous une voie très étroite. C'est d'admettre l'identité sans sombrer dans les philosophies de l'identité dont il est question et qu'il faut absolument repousser.
Sans
repli.
Oui, oui.
Parce qu'autrement, on...
qu'il y a une attente de ce côté-là.
Oui, mais je veux dire, c'est nous aussi, on n'est pas des coloniaux qui seraient simplement juifs, c'est-à-dire des gens qui cultiveraient cette identité sur le même mode que les identitaristes. Simplement, nous, notre identité, ce serait l'identité juive. Oui, il faut qu'on arrive à cultiver quelque chose qui serait sur une ligne de crête, et ça, c'est difficile.
C'est
un combat culturel, mais d'abord avec nous-mêmes, je pense, pour une part.
Mais là, on voit bien, c'est illusoire. Si on veut vraiment travailler son judaïsme, on est forcément. On est trop, on est le même et l'autre. Mais on est beaucoup le même, pas tellement l'autre. C'est-à-dire que je trouve qu'il faut accepter aussi pour développer notre être juif, accepter qu'on ne peut pas être trop le même.
Oui, mais là, par exemple, le cercle que nous formons,
non, mais
c'est effectivement non, mais on pourrait dire que c'est le cercle du même. Mais en vérité, les questions que nous soulevons sont tournées vers l'autre, c'est-à-dire vers la cité politique. À partir de là, on ne peut pas dire qu'on est dans le même, même si on construit quelque chose qui est relatif à notre identité juive dans la cité. C'est peut-être dans ce type de lieu que le programme que j'esquissais tout à l'heure peut s'inventer.
Je profite que je sois malade pour dire quelque chose de très conscient et de très très bête, mais en fait j'aurais un rêve complètement fou pour Polésic où voilà, vous vous occupez des études juives à l'université, mais est-ce que dans un monde, est-ce que ça serait quelque chose d'envisageable, même si c'est dans très longtemps, mais que dans un cycle d'études juives de l'université, il y ait quelques lieux qui soient, qui se passent peut-être dans ce Beth Midrash là. Et voilà, je crois qu'on aurait peut-être Rosie qui serait aussi diplômée de cet lieu là. C'est-à-dire qu'on a besoin de ces échanges là entre le monde universitaire et le monde de la tradition, c'est-à-dire pour véritablement mieux connaître le monde de la tradition, assister à des cours qui seraient ici, mais qui rentreraient dans la cursus formation. Comment ?
C'est le jour où le ministère de l'Éducation nationale ne sera plus à gauche.
Non, c'est intéressant. Pourquoi vous dites ça ? C'est intéressant. Parce que l'université, c'est un lieu scientifique. C'est un projet qui n'a aucun rapport avec le projet d'un président.
Ok, mais dans un parcours universitaire, quelque chose qui s'appelle études juives, pourquoi ce module d'études juives ne pourrait pas être rentré dans la boucle du Beth Midrash ? C'est pas le même objectif.
Bon, moi je voulais faire une voix dissonante qui se voit minoritaire, pas forcément dominante, mais je pense que c'est un chemin dangereux que l'identité juive, par rapport à ce qu'on a dit, et qu'il faut peut-être s'attacher à la fonction juive. C'est-à-dire que, par rapport au texte, il y a quand même un indicateur. Je sais pas, on voit que les 10 paroles, c'est une citra qui s'appelle Yétro, qu'à Shavuot, on lit le livre de Ruth, qu'à la fin du 5e pérek du traité des pères, on voit Ben Bagbag et Ben Hehe qui apparaissent. Donc, on a un peu l'impression, par rapport à ce qu'on dit, et par rapport à ce que tu dis sur le politique, qui est un lieu en Europe où, effectivement, ben, y a eu Athènes, mais il y a eu la Shoah. Et que du coup, l'Europe est là, l'article 7 du traité sur les valeurs, etc. Et que nous, on doit apporter une parole spécifique dans ce monde-là. Mais c'est une fonction. Et notre devoir, on est en interface. Aujourd'hui, il y a un État d'Israël qui est une façon de vivre un collectif, qui a un engagement militaire très courageux. 75 ans de guerre, c'est jamais arrivé dans une démocratie. Hein, donc, ça fait des effets compliqués, mais les gens mettent en jeu leur vie. Mais nous, on est sur la ligne, un chemin étroit, mais qui n'est pas un chemin identitaire, qui est une responsabilité de porteur de valises. Notre boulot à nous, c'est de porter des valises pour apporter notre contribution. Et c'est ce que tu dis qui est vachement intéressant dans un processus qui est politique, dans lequel on est une voix parmi d'autres. Et il faut apporter notre contribution. On est fonctionnaire de ça.
Quand vous dites valise, vous parlez d'héritage ?
Je parle de livres qui sont dans des valises et qu'on étudie ensemble.
Est-ce que c'est ça que j'ai appris ?
Pardon ?
Est-ce que c'est par rapport à nous, juifs ?
Oui, à ça,
ben, ça nous aiguise, une sens, une, ça nous aiguise un chemin étroit, un esprit critique, une connaissance de choses très profondes et très anciennes, même avant l'Antiquité, effectivement. Mais dans la situation qui est la nôtre, on doit jouer un rôle d'apport, de notre apport singulier, mais dans un processus qui est politique avec des gens qui ne sont pas comme nous. Et dans lequel on a une fonction, et ce n'est pas notre identité. Je crois que c'est ça la nuance, peut-être.
L'Évangile voit cette fonction comme étant un âne porteur de reliques.
Oui, mais nous, c'est peut-être... Oui, on peut être âne et taureau, mais pas forcément, c'est pas forcément des reliques.
Alors, Eliane et Rosie.
Le mot de fonction est peut-être tellement plus juste ou aussi d'état de fait de ce qu'on est. Mais sur, tu disais que ce côté imprescriptible comme ça, ce côté insaisissable du juif avec cette valeur qui lui donnait plus de corps, plus de ses habiletés, tout ça, venait de la disparition en fait. Et tes post-Shoah pour... C'est ça que tu disais ?
Oui.
Parce que moi, toute cette forme de présence-absence que trimballe le juif, c'est vrai, je vois en Allemagne, toutes les institutions juives aujourd'hui sont faites par des jeunes Allemands fraîchement convertis. Et les juifs sur place ne s'occupent plus ni de l'école rabbinique, ni des institutions communautaires, ni de rien. Les cinq grandes institutions, il y a quelque chose qui disparaît de ce juif, mais cette espèce de présence-absence, est-ce que ce n'est pas ça ce que nous reprochent les juifs depuis toujours? Je pense au livre de Madame Neher, juste après la guerre, qui a écrit que ce qui est insupportable, c'est la non-représentation, et qu'il ne s'agit pas de ça qu'on trimballe depuis toujours. Et comment c'est le noyau aussi de l'altérité, de tout ce que pose le problème de l'altérité, de l'autre et soi. Mais ça resituerait notre identité aux fonctions d'une manière beaucoup plus forte que de le décliner par rapport aux disparitions et le juif et ses blessures, le juif et ses guerres. Je pense qu'elle vient beaucoup plus de là et qu'inconsciemment, cette espèce de place vide qu'on porte, cette espèce de non-représentation qu'on porte et qui sera jamais saisissable, mais pour lequel jamais aucun juif ne renoncera.
Oui, si ce n'est que, si tu veux, ce qui s'est passé dans cette philosophie, c'est qu'une fois qu'on a évidé le juif, on y a mis autre chose. Mais justement, c'est la notion qu'à chaque fois on y a autre chose, mais c'est de ça dont ça parle toujours. C'est ça qui est insupportable
pour les autres.
Je
ne sais pas. Non, mais ça rejoint ce côté de l'altérité, de l'autre, de l'absence, de la présence-absence. Mais c'est vraiment quelque chose qui caractérise la fonction juive. Et elle est importante aussi face à toutes les autres altérités.
Enfin, je
voudrais surtout vous remercier parce que c'était, on suit très bien l'histoire que vous avez tracée et j'apprécie particulièrement, je veux dire, depuis tout ce qui se dit tout à l'heure, le mot singularité opposé à identité qui, moi, me gêne philosophiquement à cause de la fermeture de l'identité. Et j'ai l'impression que c'est surtout au niveau de cette singularité même qu'il faut travailler. Qu'il s'agisse de la Shoah, qui est pour moi indépassable, c'est pas quoi après, je pense que c'est justement parce qu'il y a disparition en ce moment au niveau des générations, on ne sait plus trop ce que c'est, ils ne savent pas. Ouais, Shoah, un peu, génocide, c'est la même chose. Enfin, dans tout de cette nouvelle histoire, la singularité. De la même manière, les études juives, vous avez, en réponse à madame, vous avez dit le religieux. Mais ce n'est pas que du religieux dans l'université, le judaïsme. C'est singulier. C'est une autre histoire. Et comment assumer de manière épistémologique cette singularité et l'affirmer comme un discours épistémologique? C'est autrement chez nous. Vous comprenez, vous? Et ce vous est un autre. Et comment articuler ce discours? Et surtout, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce que vous avez historiquement, parce que j'en suis issue, les années 70, la fin des années 60 et 70, quand Israël n'est plus cette victime de l'Holocauste, le mot Holocauste qui disparaît avec Shoah, créé par Lanzmann, que ça devient un être de chair et d'os, et que commencent en même temps les études sur la Shoah réelle et la figure du Palestinien qui surgit en même temps après 67. Et c'est tout ça qui est en train de s'articuler là maintenant, en ce moment, qui revient en quelque sorte. Et j'ai l'impression que dans ce mot de singularité que vous avez mis en valeur, il y a tout ça qui doit se réarticuler, que j'ai essayé de dire comme ça. Merci en tout cas.
Quand vous parlez comme ça à l'université, comment les gens réagissent-ils? Comment les gens, là on est dans un sénat de juifs, comment les gens mangent juifs?
J'ai dû parler comme ça à l'université.
Faites un fin de cours à une.
Non, mais on ne parle pas comme ça. L'université en traite d'autres sujets, mais on publie des livres là-dessus et. Voilà, bon, on peut être mis en cause, on peut être attaqué, on répond. Enfin, moi, ça me. Non, c'est il faut pouvoir discuter. Mais ce qui change quand même là, me semble-t-il, c'est que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'il y a quand même une prise de conscience chez des gens non juifs. Des attaques contre la démocratie et voilà la nécessité quand même de chercher comment on peut y répondre. En fait, en réalité, j'ai parlé devant beaucoup de cercles, alors pas forcément du judaïsme, mais de la démocratie. Et les gens étaient très très contents parce que d'abord j'ai un discours optimiste. Dessus en disant mais voilà, on fait des expériences de démocratie en miniature tous les jours, tous ensemble, vous préférez qu'on discute plutôt qu'on se tape dessus, donc voilà, il faut ramener les gens à des choses triviales très, très simples et ensuite après on peut monter en généralité, même chose au niveau de la philosophie de la relation. Et donc l'idée, finalement, que les gens ils sont beaucoup plus heureux d'être acteurs de leur propre histoire que d'avoir le sentiment de se faire manipuler. Donc l'idée, je trouve, c'est quand même de faire passer un message qui soit un message optimiste, positif aux gens. Voilà, moi, je suis contre le catastrophisme, je suis contre le fait... Bon, je veux dire, si on dit tout est foutu, alors on aurait mieux fait d'aller passer ces 3 heures au cinéma que prendre les neurones. Donc non, c'est en général c'est bien. Les gens sont assez contents.
Je vais vous raconter une anecdote qui sert comme une réponse. Enfin, lors du colloque qui a été organisé avec Alexandre, j'ai un peu participé aussi au CEJ sur l'hommage à Béni Lévy pour les 20 ans de son décès. Il y a eu une intervention que je crois on peut retrouver peut-être sur le net, peut-être Alexandre, c'est Denis Claudic qui était un camarade qui est prix Nobel de la paix, qui est un universitaire, qui a été donc à la gauche prolétarienne. Comment ?
Prix Nobel.
Il est prix Nobel de prix Nobel. Non mais si, il est prix Nobel, ça c'est sûr.
Claudic.
Comment ?
C'est
Donc il a été à la gauche prolétarienne, il a tout laissé tomber, ça a été un chef d'entreprise qui a tout laissé, il a tout laissé tomber, un universitaire. Bref, vous regarderez son parcours. Il était très proche de Béni Lévy. Et donc cet hommage a eu lieu peu de temps après le 7 octobre. Et donc il fait un long discours absolument incroyable. Et il termine son discours. C'est vraiment sa dernière phrase, il dit. Depuis le 7 octobre, j'ai compris que moi, en tant que non-juif, il fallait que j'étudie. Donc j'étudie depuis le 7 octobre. Mais je crois que ce qu'il faudrait faire entendre, transmettre, nous, aux juifs, c'est leur donner le goût, l'envie, je ne l'ai pas dit qu'il y a un religieux, ça c'est autre chose, mais d'étudier, de s'ouvrir à l'étude. Et ce n'est pas parce qu'ils sont laïcs qu'ils ne peuvent pas étudier. Une personne n'a le monopole de ça. Mais si au moins ils pouvaient étudier pour déconstruire ce qui a été fait, la nature horreur du vide, et je crois qu'ils sont pleins, et je pense que le problème de la démocratie et des juifs,
c'est pas tellement les autres et nous, c'est nous avec nous-mêmes. C'est nous avec nous, nous les Juifs, entre nous. C'est-à-dire, si on parle du même, de l'autre, tout ça, ça me semble important que les Juifs se rendent compte des valises dont vous parlez, et que si on ne regarde pas dans les valises, et c'est pas simplement de les regarder, c'est-à-dire de les transmettre. Et cette faille de transmission qu'il y a, elle existe. C'est à mon avis, si nous on veut influencer la démocratie et être présent dans la démocratie, c'est notre singularité, c'est de passer par les tuyaux.
Enfin, c'est mon avis.
C'est peut-être ça qui fait qu'on est dans cet état d'ivresse.
Vous voulez dire un petit mot de la fin?
Ah non.
Un immense merci à Ferris Sivola. Derrière nous pour ta présentation et à vous tous pour votre présence. On sera informé des prochaines séances qui devraient arriver très bientôt par mail. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci
beaucoup.
Merci
beaucoup. J'ai encore des questions. Une question, de toute façon, ça peut n'appeler que ce genre de réponse. Parce que tu ne vas pas apporter le document en répondant à des questions, c'est normal que ça. Mais je ne sais pas si tu as vraiment démontré la controverse qu'on a eu tout à l'heure, à savoir est-ce que c'est plus une crise de la démocratie qui entraîne l'antisémitisme ou une crise.